So bad, like a cloud I pretend. Comment l'argent a façonné notre monde.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI, il est 11h en temps universel, 13h à Paris. Et tout de suite, RFI Midi, présenté par Nemo Ampis. Bonjour Nemo.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. RFI Midi, c'est parti. Nous sommes ensemble pour 2h30 pour décortiquer, analyser l'ensemble de l'actualité internationale et africaine. À Nairobi, à l'ouverture du sommet Africa Forward, première édition d'un sommet Afrique-France dans un pays d'Afrique anglophone. Emmanuel Macron est sur place pour un événement surtout basé sur les relations commerciales avec le continent, au grand désarroi des membres de la société civile, à l'instar de la Camerounaise Fanny Yaya.
Tout est devenu économie, tout est devenu business, tout est dirigé vers ce côté-là, soit de la politique, soit de l'économie. Et moi, je pense qu'on doit également prendre en compte certains aspects des sociétés.
Ce sommet à la une, évidemment, de votre édition d'Afrique Midi avec Nicolas sur autre grand titre ce lundi. Vous l'avez peut-être entendu ce matin sur nos antennes.
Ça vous brûle les lèvres, le vainqueur est...
Mamadou Sangaré, le milieu de terrain.
Mamadou Sangaré, lauréat du prix Marc Vivien Foé 2026, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant dans le championnat de France de football. Le milieu de terrain du RC Lens devient ainsi le premier Malien à le remporter. Écoutez sa réaction.
Ça fait très plaisir, je suis vraiment content d'avoir gagné ce trophée. Ça montre que j'ai vraiment passé un cap et j'espère aussi que ça va continuer ainsi. Je suis aussi le premier joueur malien à avoir gagné ce trophée. Franchement, ça fait plaisir et je suis vraiment, vraiment, vraiment content d'être élu.
Mamadou Sangaré dans nos locaux ce lundi et que vous retrouvez à partir de 16h10 temps universel pour une édition spéciale de Radio Foot International. Dans le reste de l'actualité, la nouvelle colère de Donald Trump qui juge inacceptable la réponse rendue par l'Iran sur les propositions américaines sur la fin de la guerre au Moyen-Orient. C'est totalement inacceptable, dit le président américain. C'est à la une de nos éditions d'information. Lui est contesté désormais au sein de son propre camp après l'échec du parti travailliste aux élections locales de jeudi dernier. Le premier ministre britannique Keir Starmer s'est exprimé il y a quelques minutes. Il le dit, il veut prouver à ceux qui doutent de lui, eh bien qu'ils ont tort. Narges Mohammadi, libérée sous caution, la lauréate iranienne du prix Nobel de la paix en 2023, dont l'état de santé s'est largement dégradé. Elle se trouve à Téhéran. On vous donne les détails dans une minute. Et puis notre invité, dans un peu plus d'une heure, Yoav Shemerkounz, responsable des relations avec l'Union européenne au sein de l'Organisation israélienne de défense des droits humains, B'Tselem. On revient avec lui sur les attaques de plus en plus nombreuses et violentes de colons israéliens en Cisjordanie occupée. Vous avez le programme des RFI Midi. Bienvenue. Et c'est tout de suite l'heure du journal avec vous, Karine Bellicha, bonjour.
Oui, bonjour.
Un journal qui commence par la libération, on le disait, sous caution, en Iran, de la militante des droits humains, Narges Mohammadi.
Et l'exécution de sa peine de 18 ans de prison est pour le moment suspendue. L'état de santé de la prix Nobel de la paix s'était gravement détérioré après une nouvelle arrestation en décembre dernier. À Rimlipol, Narges Mohammadi a été transférée d'un hôpital à Zanjan, dans le nord du pays, à Téhéran.
Narges Mohammadi est désormais entre les mains de sa propre équipe médicale. Selon son avocate, elle aurait perdu 20 kilos en 4 mois de détention dans des conditions très dures et aurait subi deux crises cardiaques. Son mari estime que sa vie ne tient plus qu'un fil. Figure majeure de la lutte pour les droits humains et des droits de femmes en Iran, elle subit depuis plus de 20 ans arrestations, procès expéditifs et emprisonnement répété. Les autorités iraniennes l'accusent notamment de propagande contre le régime. Âgée de 54 ans, la militante avait de nouveau été arrêtée en décembre dernier, après avoir critiqué le pouvoir lors d'une cérémonie funéraire. Condamnée en février à 7 ans et demi de prison, ce qui porte à 18 ans la totalité des peines prononcées contre elle, Narges Mohammadi a finalement été libérée sous caution dimanche. Selon son avocate, ce sont les pressions diplomatiques et la mobilisation de la société civile qui ont permis cette sortie de prison. Le prochain combat est désormais d'obtenir l'abandon des charges et sa libération définitive.
Pendant ce temps, Karine, les tractations entre Washington et Téhéran ne donnent rien.
C'est un grand non pour Donald Trump. Le président américain a rejeté la réponse de l'Iran à ses propres propositions pour mettre un terme à la guerre, et les prix du pétrole repartent à la hausse en même temps que s'éloigne la perspective d'une réouverture rapide du détroit d'Ormuz. Une question se pose, comment continuer à approvisionner les États du Golfe, car ces pays dépendent massivement de l'étranger. Près de 85% de leurs produits alimentaires sont importés. Alors pour continuer à livrer denrées et marchandises, les compagnies maritimes ouvrent de nouvelles routes. Exemple avec le géant italo-suisse MSC qui vient d'inaugurer une nouvelle liaison à la fois maritime et terrestre. Une logistique complexe pour contourner le détroit d'Ormuz, mais aussi Nicolas Feldman, source de profit pour les armateurs.
Le premier bateau d'MSC est parti hier du nord de l'Europe, direction le canal de Suez. Les marchandises seront ensuite déchargées à l'ouest de la péninsule arabique avant d'être transportées par camion pour enfin être redistribuées vers les ports du Golfe. C'est toute une continuité logistique nécessaire en temps de crise, explique Yann Alix, expert à la Fondation C'est Facile.
C'est la capacité de MSC de dire « je suis agile, je vous trouve des solutions alternatives ». Ils organisent un corridor terrestre qui est un pis-aller pour pouvoir continuer d'irriguer tous les ports, Bahreïn, Qatar, Jebel Ali, Abu Dhabi, qui ne sont plus alimentés du fait du blocus d'Ormuz.
Comme MSC, depuis le début de la guerre, le français CMA-CGM ou le danois Maersk ont eux aussi ouvert de nouvelles routes, à la fois sur la mer et sur la terre.
On appelle ça le service de bout en bout. C'est l'aspiration ultime de ces compagnies maritimes que de devenir des services logistiques intégrés où le maillon maritime est le maillon fort. Mais sur la terre, c'est là qu'on génère le plus de valeur parce que ça coûte plus cher de transporter par la terre. C'est plutôt une opération commerciale intéressante parce que ça veut dire plus de bénéfices ou du moins ça absorbe les surcoûts.
Car avec ces nouvelles routes, les taux de fret s'envolent, ce qui fait mécaniquement grimper les prix au profit des armateurs.
Et de toute façon, pour Benjamin Netanyahou, la guerre en Iran n'est pas finie.
Car il faut, pour le Premier ministre israélien, récupérer les stocks d'uranium enrichi du régime de Téhéran. Il dit envisager une opération pour s'en emparer et exfiltrer ces matières nucléaires, 400 kilos environ, enrichis à plus de 60% selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, répartis sur trois sites, Fordo, Natanz et Ispahan.
Deux passagers du MV Ondus testés positifs au hantavirus alors que les dernières évacuations du navire se poursuivent aux Canaries.
Il s'agit d'un Américain et d'une Française. L'état de santé de cette dernière s'est d'ailleurs dégradé cette nuit. Hier, les deux tiers des occupants du bateau ont déjà été évacués. Ils sont tous considérés comme des contacts à haut risque. Le virus des Andes peut se transmettre d'homme à homme avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à 6 semaines. C'est ce même variant qui a frappé il y a 8 ans et demi un village de Patagonie dans l'est de l'Argentine. Il avait fait 11 morts. François-Damien Bourgery, bonjour.
Bonjour.
À l'époque, l'épidémie avait provoqué la peur et la stigmatisation, mais elle avait aussi constitué un cas d'école sur les vertus de l'isolement.
Oui, nous sommes en novembre 2018 dans le village d'Épouchène. Une centaine de convives participent à une fête d'anniversaire. Parmi eux, une personne atteinte de l'hantavirus des Andes. À l'époque, dans ce village de 1300 habitants de la Patagonie argentine, on ne sait pas grand-chose de ce virus propagé par les rongeurs et encore moins de son variant qui se transmet d'homme à homme. La pandémie de Covid-19 n'a pas encore frappé la planète. Les gestes sanitaires, aujourd'hui devenus des réflexes, ne ne sont pas encore maîtrisées. Alors quand 5 villageois tombent malades à leur tour, aucune précaution n'est prise. L'un contamine 6 autres personnes avant de mourir. Sa veillée funèbre se transforme en un deuxième foyer de propagation. La paranoïa s'installe et Pouchen est surnommé le village de la peur. Des mesures sont alors instaurées. Les personnes contactent, une centaine au total, sont placées à l'isolement pendant 45 jours. En 3 mois, 34 cas sont recensés. L'épidémie fait 11 morts, mais le protocole mis en place marque un tournant dans la réponse épidémiologique. Désormais, quand un cas d'antivirus est détecté, l'isolement est prescrit ou recommandé.
François Damien Bourgerie, pour éviter une éventuelle propagation du virus, cette fois-ci, les pays concernés ont décidé de mettre les passagers du navire à leur retour à l'isolement. Plus de 40 jours sur recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, sauf aux États-Unis. Là-bas, les autorités ont décidé de se contenter d'une mise sous surveillance, une décision qui peut présenter des risques, selon le patron de l'OMS.
Karine, les parlementaires philippins ont décidé de mettre en accusation la vice-présidente Sara Duterte.
Elle, la fille de l'ancien président Rodrigo Duterte, est notamment accusée de malversation et de corruption. En vertu de la constitution philippine, sa mise en accusation entraîne automatiquement un procès au Sénat. Si elle est reconnue coupable, elle sera destituée et inéligible à vie.
Alors que l'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra est lui sorti de prison.
Condamné pour corruption, il devra désormais porter un bracelet électronique pendant les 4 prochains mois. Pour le moment, Thaksin n'a pas indiqué s'il compte renouer avec la politique alors que son parti est actuellement en perte de vitesse après une domination de plus de 20 ans de la vie politique thaïlandaise.
Et puis Keir Starmer promet de reconstruire la relation du Royaume-Uni avec l'Union européenne.
Le Premier ministre britannique a tenté dans un discours très attendu de reprendre la main après des élections locales catastrophiques pour le Labour. Il annonce notamment qu'il veut conclure un nouvel accord avec les 27 sur un programme de mobilité des jeunes, comme Erasmus le propose. Face à la montée de Réformes UK, le parti anti-immigration et europhobe, Keir Starmer, a estimé que le Brexit avait rendu le Royaume-Uni plus pauvre et plus faible, contrairement aux promesses de son leader Nigel Farage.
RFI midi, 13h11, ici en France, à moins d'1 an de l'élection présidentielle, la gauche paraît plus désunie que jamais.
Mécontent de la stratégie du PS défendue par Olivier Faure, le chef des députés socialistes Boris Vallaud a claqué la porte de la direction du parti. Son départ rouvre une nouvelle crise majeure au sein du PS, désormais minoritaire et isolé. Olivier Faure est maintenant le seul favorable à une primaire ouverte de la gauche. Charlotte Turien-Thomaca, bonjour.
Bonjour.
L'hypothèse d'une primaire ouverte semble de moins en moins probable.
Oui, elle devait incarner le sursaut unitaire de la gauche. Elle ressemble aujourd'hui à un chantier abandonné. Le projet était déjà vacillant. Il s'est maintenant vu porter un nouveau coup avec le départ fracassant de Boris Vallaud de la direction du PS, car les obstacles s'accumulent depuis des mois. La France Insoumise et Place Publique ont refusé d'emblée d'y participer. Le PCF également, même au sein du PS, initiateur du projet avec les écologistes. La guerre intestine entre Olivier Faure et Boris Vallaud a rendu la participation socialiste hautement incertaine. Mais le premier secrétaire du PS veut y croire, Olivier Faure.
Qu'est-ce que je cherche à faire depuis des semaines, voire des mois, et je dirais même des années ? À rassembler l'ensemble de la gauche non mélenchoniste pour pouvoir avoir une candidature qui permette d'accéder au second tour, puis au second tour de rassembler les Françaises et les Français face à l'extrême droite et de l'emporter.
Et le chef des députés PS a une autre idée en tête, Boris Vallaud.
Moi, je veux faire une proposition. Rendez-vous de la gauche plurielle pour avoir, d'accord, à la fin, un contrat de législature, ouais, un contrat de gouvernement, un programme
donc
commun,
Boris Vallaud,
et un candidat commun.
Donc...
De son côté, l'ancien président François Hollande, qui dit se préparer à l'éventualité d'une candidature, ferme la porte à une primaire.
Il n'y aura pas de primaire pour désigner un candidat avec la gauche au-delà du Parti socialiste. C'est fini, que chacun le comprenne bien, c'est terminé.
Sans accord entre les principaux partis, la perspective d'une candidature unique paraît aujourd'hui très incertaine. La gauche pourrait donc partir divisée à la présidentielle de 2027.
Merci Charlotte Turien-Thomaca. Un mot de football, Karine, à présent.
Oui, Mamadou Sangaré est le vainqueur du prix Marc-Vivien Fouet 2026. Ainsi en a décidé le jury réuni par RFI et France 24. Le milieu de terrain de Lens est sacré meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1 qui s'achève dimanche prochain. Une première pour un Malien. Son trophée lui sera remis dans nos locaux et il sera l'invité d'honneur d'un Radio Foot spécial à 16h10 temps universel. Écoutez sa réaction recueillie par Christophe Jousset.
Ça fait très plaisir, je suis vraiment content d'avoir gagné ce trophée. J'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup bossé. Ça n'a pas été facile pour moi quand j'ai commencé ma carrière jusqu'à maintenant. Donc ça montre que je n'ai pas lâché durant toute ma carrière jusqu'à maintenant. Et gagner ce trophée, ça montre que j'ai vraiment passé un cap. Je suis aussi le premier joueur malien à avoir gagné ce trophée. Franchement, ça fait plaisir et je suis vraiment, vraiment content d'être élu.
Mamadou Sangaré, très content au micro de Christophe Jousset.
Merci Karine Bellicha, on vous retrouve tout à l'heure pour le journal. Il est 13h13 ici à Paris.
Vous écoutez HDR 99.1. A big fucking energy release, make you sweat, holla back, getting hotter like a sauna.
It's Ice Cube come to pay a little visit to you. And what's up with the mix? in the parking lot. She said, fuck them, cause they get sparked a lot. I sat on the couch, but it wasn't steak. And then I put my knives on a coffee table. Her brother came in, he's in the gang banging, cause he walked up and said, what set you claim? I don't bang, I rock the good rhymes. The whole scenery reminded me of good times. I don't like to feel bad, I'm put in a rut by a young nigga that need to pull his pants up. He threw up his set, and then he was gone. I'm thinking to myself, won't this bitch bring her ass on? Her mother came in with a joint in her mouth and fired up the sets. It was sets, no doubt. She said, please excuse my house and all that. I said, yeah, cause I was buzzed from the contact. Looking at her, fucked up black and white. Her mom's bitching cause the county check wasn't right. She had another brother that was 3 years old and had a bad case of the runny nose. He asked me who I was, then I had to pause. It smelled like he took a shit in his little drawers. I saw her sister, who really needs her ass kicked. Only 13 and already pregnant. I grabbed my 40 out the bag and took a swig, cause I was getting overwhelmed by baby kids. They was running and yelling and playing and cussing and telling. And look at this young punk belling. I heard her knock on the door without the password. And her mom's got the 12-gauge Mossberg. The nigga said, yo, what's for sale? And the bitch came out with a bag of yayo. She made the drop and got the $20 from a smoke out full with ring around the collar. The girl I was waiting for came out. I said, bitch, I didn't know this was a crack house. I got my coat and suddenly... Had a Mac-10 pointed at my dome, and I said to myself, once again, it's on. He threw me on the carpet and wasn't cutting no slack. Jumped on my head and put his knee on my back. First, he tried to slap me up, wrap me up, rough me up. They couldn't do it, so they cuffed me up. I said, fuck, how much abuse can a nigga take? Hey, yo, officer, you're making a big mistake. Since I had on a shirt that said I was dope, he thought I was selling paste and couldn't hear my case. He said, get out my face, and must have had a grudge. His reply told that bullshit to the judge. The girl I was with wasn't saying nothing. I said, hey, yo, bitch, you better tell him something. She started dragging, and all of a sudden, we all got tossed in a paddy wagon. Now I beat the rap, but that ain't the point. I had a warrant, so I spent 2 weeks in a joint. Now the story you heard has one little object. Don't fuck with a bitch from the project.
Motherfucking project, man, ain't a joke.
L'ours et la carotte. Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Alors cette semaine, j'ai envie de vous présenter quelqu'un. Ce quelqu'un s'appelle Julien Louchard. Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Alors Julien, vous ne le connaissez pas. C'est pas quelqu'un qu'on voit dans les médias. C'est ce qu'on aime nous en général à l'ours et à la carotte. Et c'est ces personnes qui nous parlent d'écologie, qui font pas forcément les plateaux, mais qui ont des choses à dire. Julien, tu travailles pour l'Office international de l'eau, qui est une grosse association française et internationale. Sur cette question de l'eau, cette question qui est cruciale, cette question qui suscite des passions folles, surtout quand il en manque, qui a une importance cruciale parce que les choses sont ce qu'elles sont, mais le changement climatique met son petit grain de sel là-dedans et complexifie encore plus cet avenir qui se dessine.